Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Amélie Perrault, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Aliette Ovin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jean Frédérics.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Le vin est un professeur de goût, il est le libérateur de l'esprit et l'illuminateur de l'intelligence. Voilà ce que déclarait Paul Claudel lors de la Foire internationale de Bruxelles le 2 mai 1935. Un éloge qui fait écho aux récents propos du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, pour qui le vin n'est pas un alcool comme les autres. Déclaration qui a provoqué la colère des spécialistes de l'addiction. Ils dénoncent le poids des lobbies du vin. Il faut dire que les enjeux économiques de ce commerce mondialisé sont considérables. L'économie du vin se transforme et la domination française ne semble plus aller de soi. Alors face à la concurrence des vins étrangers, la France peut-elle demeurer le champion incontesté du secteur ? C'est en tout cas l'objectif poursuivi par le salon Wine Paris qui se tient à partir de lundi dans la capitale. Les métamorphoses de l'économie du vin, on en parle aujourd'hui avec nos trois invités. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. L'économiste Aurore Laluc nous plongera dans les pages de l'État prédateur de James Galbraith. Trois invités autour de la table donc. Bonjour Pascal Ferranti.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du Salon Wine Paris qui se présente comme le premier salon international des professionnels du vin. Vous dirigez auparavant le Salon Vini Sud à Montpellier et vous êtes également directrice des World Wine Meetings de Barcelone et Singapour. À vos côtés, Jean-Marie Cardeba, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur à l'Université de Bordeaux, auteur de l'économie du vin, paru aux éditions de la Découverte, et professeur affilié à l'INSEC Business School. Et enfin Séverine Bourrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes productrice de vin bio dans la région du Languedoc-Roussillon depuis 20 ans et vous exportez la majeure partie de votre production et vous exposerez au salon Wine Paris. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
Ici, la terre agricole est moins chère qu'en France. La main-d'œuvre aussi. Donc oui, bien sûr, je pense que nos coûts de production sont bien plus bas que les vôtres.
On compte désormais plus de 700 restaurants italiens en Corée. Donc automatiquement, la demande pour les vins italiens va augmenter.
Ça a été très surprenant pour nos clients parce que lorsqu'ils ont dégusté cette bouteille de vin, beaucoup d'entre eux ont cru que c'était un Bordeaux. Mais au final, ils se sont rendus compte que la bouteille venait de Chine. Tous sont très enthousiastes. Ils sont très surpris par la qualité de ce vin.
Voilà, on entendait un agriculteur espagnol, un importateur de vin coréen et le sommelier du restaurant de Joël Robuchon à Shanghai. La France a perdu l'an dernier sa première place sur le podium. C'est l'Italie, le premier producteur mondial de vin en volume. Signe que la concurrence est de plus en plus forte, Pascal Ferranti ?
Oui, effectivement, la concurrence est très très forte et c'est pour ça que la filière française du vin a voulu réagir par rapport à tous ces challenges qu'elle a à la fois proches sur des vignobles, par exemple, des producteurs comme les Italiens et les Espagnols, et aussi des vignobles plus lointains comme l'Overseas avec l'Australie, le Chili. La filière française a voulu réaffirmer son leadership donc organiser pour la première fois un salon à Paris, capitale mondiale du vin, qui commencera donc Wine Paris le lundi 11 février pour justement réaffirmer être sur la première marche du podium. Et on s'aperçoit aujourd'hui effectivement que le business du vin se fait à l'international, se fait à l'export. Donc le but est vraiment de s'afficher tous ensemble pour pouvoir parler d'une seule et même voix et d'attirer les acheteurs du monde entier.
C'est en 2017 que la France a perdu sa première place, je le disais. L'année 2017 a été catastrophique pour le vin français et même au niveau mondial à cause du climat notamment. Mais cette diminution de la production française faisait suite à 4 années de baisse de la production. Jean-Marie Cardeba, comment est-ce qu'on explique cette baisse de la production ?
Différents facteurs, vous l'avez dit, les aspects climatiques sont les premiers, bien évidemment, avec un climat qui a été très défavorable en France toutes ces années-là, après quand même climat très favorable dans les années 2000 malgré tout. Et puis aussi, d'autres aspects, on est dans un pays qui est très densément peuplé, on a un grignotage petit à petit, une concurrence entre les terres agricoles et les terres constructibles. Donc voilà, au final, ça fait qu'on a une réduction progressive des surfaces en France et dans tous les pays assez densément peuplés.
Et en même temps, ce qu'il faut dire, Séverine Brouillet, c'est que la France est le premier exportateur de vin et de spiritueux en valeur, puisque la France mise notamment et en grande partie sur des vins de qualité.
Oui, c'est ça. La France fait tout pour rester la reine du vin, historiquement déjà. Donc c'est vrai que ça fait partie de son ADN. Donc elle ne cesse, et toutes les appellations françaises ont fait des efforts colossaux pour pouvoir justement montrer quels étaient les atouts de chaque région. Les interprofessions font ce travail de communication, et puis après effectivement, mais des événements comme le salon vont aussi servir de vitrine pour pouvoir montrer ce que font les producteurs aujourd'hui et où ils en sont arrivés qualitativement.
Aujourd'hui, les parts de marché de la France reculent, mais alors la question qui se pose, c'est où est-ce que ces parts de marché reculent, et la question qui se cache derrière, peut-être, c'est est-ce que la France s'est endormie sur ses lauriers ces dernières années, et pendant ce temps, la concurrence s'organisait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les erreurs qui ont pu être faites, Pascal Ferranti?
Bah, je dirais que les vins de l'Overseas ont été très dynamiques au niveau de la manière de se présenter par rapport à l'acheteur. En fait, ils ont tourné la production en
pensant...
Quand
vous parlez des vins de l'Overseas ?
Donc, je pense à l'Australie, au Chili, à l'Argentine. Je veux dire, ils ont été très tournés vers le consommateur, et à chaque fois qu'ils se sont affichés, c'était d'une manière collective, avec des stands qui rassemblaient l'ensemble des producteurs, et aussi beaucoup d'aide aussi qu'ils ont eu à l'export. Donc nous, effectivement, par rapport au vin français, nous avons, comme le précisait Savine Bourrier, une législation des classements, les AOP, qui sont très très fortes, mais et qui aussi permettent de valoriser notre production, mais qui peuvent être des fois un peu compliquées pour les consommateurs. Voilà, donc qui sont les vins étrangers, effectivement, ont été peut-être plus, se sont rendus peut-être plus abordables pour les consommateurs. Voilà.
Donc vous diriez que c'est notamment une question de contrainte et peut-être une question d'erreur stratégique. Jean-Marie Cardebas, les Bordelais qui ont délaissé le marché américain à la fin des années 2000, par exemple, essayent aujourd'hui d'y revenir. Peut-être qu'il y a des erreurs qui ont été faites sur ce plan ?
Des erreurs sans doute, même si à l'époque ça paraissait assez logique de se tourner plutôt vers le marché chinois qui était en plein essor, alors que le marché américain avait une croissance somme toute assez limitée mais régulière malgré tout. Alors, dans un contexte où on n'a pas assez d'offres, parce que, comme vous l'avez dit, la production baisse, hein, il faut dire aussi que l'Europe impose des droits à planter qui ont été en baisse également, pour compléter ma réponse de tout à l'heure, on se retrouve avec des choix à faire lorsqu'on est un producteur, qu'on a une production à vendre et qu'il y a une forte demande mondiale. Clairement, la Chine était le marché alimenté en priorité, parce que c'est là que les marges étaient les plus importantes, un marché relativement immature, donc un marché sur lequel on pouvait sans doute plus facilement faire des marges, envoyer des niveaux de qualité assez différent. Le marché américain est un marché plus mature, plus exigeant. Et de fait, les producteurs français, que ce soit les Bordelais ou les autres d'ailleurs, ont plutôt limité les exports vers les marchés traditionnels, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis par exemple, pour favoriser les marchés émergents et typiquement la Chine. Donc,
et pourquoi est-ce que la Chine s'est révélée un mauvais choix ?
Alors, je n'ai pas dit que c'était un mauvais choix. Ça, je vous en laisse la responsabilité. Non, la Chine a été un excellent choix. Vous savez, en 2005-2006, on était en plein dans le plan Bordeaux. Il était question de la survie du vignoble bordelais parce que ce sont des vins qui se vendent de moins en moins en France et dans tous les pays traditionnellement consommateurs de vin, l'Italie, l'Espagne, la France, qui sont les grands pays producteurs, la consommation chute en tendance de façon extrêmement nette. Donc, il fallait bien trouver des marchés à l'export. Et la Chine s'est présentée vraiment avec une position de sauveur, si vous voulez, notamment du Bordelais. Donc c'était certainement pas une erreur que d'aller en Chine.
Derrière ma question, c'est pourquoi aujourd'hui les Bordelais se tournent à nouveau vers le marché américain, et est-ce que ça sous-entend qu'ils se détourneraient du marché chinois ?
C'est un mouvement assez pendulaire en fait. Le marché chinois aujourd'hui est devenu à son tour mature, beaucoup plus exigeant, avec une concurrence qui est accrue, parce qu'il n'a pas attiré que les Bordelais bien évidemment. Vous avez une forte concurrence des vins qui sont sont pas trop éloignés, on va dire, comme ceux de l'Australie par exemple. Le Chili est très agressif aussi commercialement en Chine. Ce sont des pays qui ont une meilleure compétitivité avec des exploitations de taille plus importante, une exploitation des économies d'échelle du coup, qui est plus importante. Et de fait, ils arrivent avec des vins avec une qualité qui est tout à fait intéressante et des prix qui sont très contenus. Donc forcément, sur le bas moyen de gamme, un secteur qu'on a un peu délaissé en France, effectivement, la concurrence devient très forte et les Bordelais, comme les autres Français, sont un peu plus en difficulté. Rajoutez à ça le fait qu'il y a eu différentes lois en Chine, les lois anticorruption, etc., qui ont tassé le marché d'une certaine façon et qui ont fait éclater cette bulle qu'il y a eu pendant toute la deuxième moitié des années 2000 sur les exports de Bordeaux, notamment dans ce pays.
Séverine Bourrier, vous exploitez un vignoble bio de 75 hectares. Quel est justement votre modèle économique? Je crois qu'il y a plus de 70% de vos vins qui sont exportés.
Oui, c'est, vous savez, on parle beaucoup de l'agriculture biologique aujourd'hui. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Moi, il y a 20 ans, quand on a commencé, c'est un domaine que l'on a acheté. On n'en a pas hérité, donc on a tout construit. Et à l'époque, c'était courageux, j'ai pas honte de le dire, que de se tourner en agriculture biologique, parce que la France n'était pas prête à ça. Nos voisins européens, oui, mais nous, non. Et ensuite, j'avais un deuxième handicap, c'est que on arrivait avec des vins du Roussillon. Et les vins du Roussillon avaient tout sauf bonne presse il y a 20 ans non plus. Alors certainement avec beaucoup de raisons, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est vrai que il y a 20 ans, quand on a commencé notre exploitation, il fallait faire des choix économiques. Et les seuls pays qui ont été réceptifs à nos vins ça n'a pas été la France, malheureusement. Ça a été les pays qui nous touchaient, limitrophes, et puis d'autres pays comme les États-Unis, on en parlait tout à l'heure, mais aussi le Canada. Voilà, des marchés qui étaient beaucoup plus ouverts aussi à ce type d'agriculture. Donc ça, c'est vrai que ça nous a un petit peu fait mal, hein, clairement. C'est toujours plus facile de travailler à domicile que de prendre des avions, c'est beaucoup moins écologique. Mais par contre, voilà, aujourd'hui, c'est une réalité, ça reste vrai.
C'est toujours le cas aujourd'hui,
c'est ce que j'allais vous demander. Oui, c'est toujours le cas, même si on a assisté ces 10 dernières années à une explosion de l'agriculture biologique, tant sur la production, et ça c'est plutôt bien, en tout cas pour l'écologie, et puis sur également la demande aujourd'hui, qui s'est construite aussi, et certainement aussi par le biais de ces échanges lors de salons comme ça qu'on peut avoir. Ça se construit, cette offre elle se construit, mais elle se construit grâce à une demande qui se construit également. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous on est à 70% à l'export, mais aussi parce qu'on est sur un marché de valorisation. Je parlais tout à l'heure de choix stratégiques, l'agriculture biologique coûte cher, on est sur des appellations, nous en Roussillon, qui subissons un climat important, enfin très sec en tout cas. Je plaisantais tout à l'heure avec le soleil, mais c'est vrai que voilà, c'est une constatation. On a nos rendements qui diminuent et il faut pouvoir aussi continuer de vivre et valoriser nos produits. Et cette valorisation,
elle se fait à l'étranger.
Elle se fait à l'étranger parce que en France, on n'a plus, je crois, cette culture parfois de valorisation des vins, parce que on pense qu'on est issu, c'est notre patrimoine, il nous appartient, et de fait on ne peut pas payer parfois un certain prix alors que on devrait.
L'objectif du salon Wine Paris que vous dirigez, Pascal Ferranti, c'est aussi de concurrencer le plus grand salon international du vin qui a lieu à Düsseldorf en Allemagne. Il s'agit, comme vous le disiez, de faire de Paris la capitale internationale du vin. Pourquoi ce choix ?
En fait, c'est vrai que c'est un changement radical. En fait, c'est vraiment inédit le fait que pour la première fois, un salon ait lieu dans un lieu de consommation et pas de production, comme c'est le cas pour Vinexpo ou comme nous-mêmes Vinisud à Montpellier. Donc effectivement, Paris, on a trouvé ce lieu stratégique parce que Paris, capitale mondiale du vin, c'est la première ville de consommation au monde avec 5,32 millions d'hectolitres par an. C'est aussi un endroit très accessible du point de vue de l'international. Donc ça, c'est aussi très important de tenir compte de raisonner acheteur.
Mais justement, pourquoi ce n'était pas déjà le cas? Pourquoi c'était Düsseldorf jusqu'ici, le plus grand salon international du vin?
Parce qu'effectivement, les Allemands sont très rigoureux dans l'organisation et je pense surtout qu'ils ont su profiter un peu de la faille dans laquelle on était entré, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément une unité au niveau de la filière française et ils ont profité effectivement de cette faille pour pouvoir accueillir l'ensemble des vignobles et d'avoir une offre mondiale.
Et pourquoi ce manque d'unité justement?
Parce que effectivement au niveau du secteur du vin, il y a beaucoup de velléités au niveau régional et vraiment encore une fois Wine Paris est né de la volonté de toute la filière française et des interprofessions. C'est un salon en fait qui est construit sur Vinovision, pour faire un petit peu l'historique de Wine Paris. C'est l'union en fait entre Vinovision, qui est un salon pour les vins septentrionaux, c'est-à-dire les vins à climat tempéré, et Vinisud, le mondial des vins méditerranéens, donc de tout le bassin méditerranéen. Et en fait, l'idée en fait, c'était de rassembler toutes les interprofessions françaises. Donc aujourd'hui, elles sont 13 qui sont partenaires et fondatrices, enfin des interprofessions fondatrices de Wine Paris, qui on va communiquer tous ensemble pour montrer la diversité des régions françaises.
Jean-Marie Cardebas.
Oui, simplement sur le plus grand salon Pro Wine à Düsseldorf, relativisons un tout petit peu. Vinexpo a très longtemps été le premier salon. Il était à Bordeaux. Il est toujours à Bordeaux. Maintenant, il se délocalise à Hong Kong notamment. Mais je crois que c'est pas choquant non plus finalement d'avoir un salon dans un grand pays importateur, parce que l'Allemagne est quand même un des principaux importateurs de vin, notamment de vin français. Donc il faut relativiser ça. Il y a l'aspect producteur, il y a l'aspect consommateur et importateur. D'autre part, pour ce qui est des Allemands, et pour répondre un petit peu à votre question, pourquoi Düsseldorf, il y a quand même une longue tradition de business des salons, tout secteur confondu en Allemagne. Et ils ont, comme vous l'avez dit, Madame Ferranti, un excellent savoir-faire en termes de logistique, de communication, etc.
Et alors en quoi le vin est-il un enjeu économique majeur en France, Jean-Marie Cardebas, aujourd'hui? C'est, je crois, le deuxième secteur d'exportation excédentaire après l'aéronautique?
Tout à fait, c'est environ 10 milliards par an d'excédent commercial uniquement avec ce secteur, donc devant la chimie-pharmacie. Donc c'est quelque chose d'assez colossal. On a eu dernièrement les chiffres du déficit extérieur de la France, c'est 58 milliards d'euros. Là, on a 10 milliards d'euros d'excédent, donc c'est quelque chose à considérer, c'est quelque chose qui a été compris par les politiques, un petit peu tardivement peut-être, mais qui a vraiment été intégré aujourd'hui. Mais c'est pas que ça, d'un point de vue économique, je crois que ce qu'il y a de très important dans le vin aussi, c'est l'aspect emploi local. On est dans une époque où vraiment on a une agrégation des activités économiques dans certains grands pôles urbains, je pense à la région parisienne évidemment, la région lyonnaise et puis les grandes agglomérations de façon générale. Le vin a ceci d'intéressant, c'est qu'il est dans les campagnes. Et ça c'est quand même extraordinaire parce qu'il crée de l'emploi là où on n'en crée plus. Et de ce point de vue, le vin a une fonction d'aménagement du territoire. Et on pourrait y ajouter d'ailleurs un aménagement du territoire au sens paysager. Et c'est quelque chose de fondamental. Donc ça structure les paysages, ça structure l'emploi local. Et c'est une activité de main-d'œuvre. Et jusqu'à un certain point, parce qu'on pourrait discuter là-dessus, mais c'est non délocalisable. Oui. Donc on a quand même tous les avantages qui sont attachés à l'emploi, alors que si vous prenez l'industrie, typiquement, elle s'est évaporée. Elle s'est concentrée, puis évaporée.
Séverine Bourrier.
Oui, et pour aller encore plus large, effectivement, ça a également développé d'autres activités, comme le no-tourisme, qui est aujourd'hui un secteur en plein développement, sur lequel on est en retard en France de façon considérable.
C'est 10 millions de touristes, oui.
C'est terrible.
Et comment expliquer ce retard?
Les Français ne sont pas assez curieux. Je crois que je te le définirais comme ça. Ils ne vont pas voir ce qui se fait ailleurs. Et ça, c'est un peu dommage, parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Il y a des régions comme l'Alsace qui ont été les premières à développer ce type d'activité, qui continue de garder une belle avance. Mais c'est nos voisins européens, les Espagnols, pour pouvoir les citer, font un travail énorme. Eux aussi se sont beaucoup développés ces 10 dernières années. En ce sens, ont compris un petit peu cet attrait. Et c'est dommage parce qu'il y a, ça nécessite aussi beaucoup d'emplois. Mais aujourd'hui, vous savez, on est le seul pays aussi à offrir nos dégustations en France. C'est un peu...
C'est lié à une tradition.
Oui, parce que on a du mal à faire payer un service, quelque part. Vous allez en Espagne, vous payez votre dégustation. Vous allez en Italie, vous paierez votre dégustation et votre visite. On paiera partout. Et de fait, c'est une activité qui, parfois, paraît compliqué pour un agriculteur de se dire j'offre mon temps, bon, je n'ai pas envie de le faire. Et je crois que le principal problème, c'est là qui s'est défini.
C'est pour toutes ces raisons, Jean-Marie Cardeva, que le no-tourisme a mis du temps à se développer en France?
Bien sûr, pour toutes ces raisons, d'autres encore. Hein, je pense qu'il y a une attitude aussi du vigneron. Alors, on a tous l'image du vigneron bourru. Alors, Séverine est un contre-exemple parfait, mais on a tous l'image du barbu un peu austère qui nous accueille dans ses chais, etc. Et effectivement, ce ne sont pas des gens qui sont culturellement tournés vers l'accueil du public. Ils sont là pour faire du vin. Ils ont un style, souvent. Ils ont un geste. Et c'est un métier complètement différent que celui de faire de l'œnotourisme. À partir du moment où c'est un métier différent, ça veut dire que si on veut le faire, il faut des ressources, il faut notamment des gens qui soient des spécialistes de ça, il faut embaucher. Et vu la taille moyenne des exploitations françaises, ben, il y a finalement assez peu d'exploitations qui peuvent se le permettre. Lorsque vous regardez la taille des exploitations, même en Espagne, ou dans les pays du Nouveau Monde, aux États-Unis, en Australie, etc., vous avez de véritables entreprises avec beaucoup de personnel et une capacité commerciale à faire ce genre de choses. Je rajouterais que pour le Bordelais, même quand on a les moyens, même quand on est une belle exploitation, il y a aussi la culture du secret. On n'aime pas ouvrir nos portes. Le Bordelais est quand même quelqu'un qui aime bien vivre dans son château et ne pas trop ouvrir les portes du château.
Alors ça s'appelle les portes ouvertes aussi, ça m'a toujours...
Mais voilà, donc il y a deux jours on les ouvre, mais il ne faut pas exagérer, voilà, plus de deux jours ça suffit. Et j'ai entendu cette expression justement d'un producteur bordelais qui disait « mais nous c'est pas Disneyland, hein. Quand je vois ce qui se pratique, j'ai vu des exploitations en Afrique du Sud où c'était effectivement Disneyland. »
Mais d'ailleurs en fait, quand vous feuilletez les guides des vins, en fait souvent il est noté après le numéro de téléphone « dégustation sur réservation ». Voilà, donc...
Alors je disais en introduction, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a déclaré le mois dernier que le vin n'était pas un alcool comme les autres. Même tonalité chez Emmanuel Macron qui a repris la formule de Georges Pompidou, n'emmerdez pas les Français. Des propos qui ont provoqué la colère des spécialistes de l'addiction. Ils estiment que les lobbies du vin sont en train de remporter la bataille face aux défenseurs d'un contrôle plus strict de la consommation d'alcool. Quel regard est-ce que vous portez sur cette polémique, Séverine Bourrier?
Je crois qu'il a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Je vais faire une illustration simple. Quand on parle d'un sujet sur lequel on va parler d'alcool, on montre un verre de vin. Et ce qu'a voulu dire le ministre, mais je pense qu'il s'en est expliqué depuis, de toute façon, c'est qu'effectivement, les jeunes sont beaucoup moins attirés en boîte de nuit par le vin, pour la bonne et simple raison qu'il n'en est pas vendu. Donc, c'était peut-être maladroit, mais effectivement.
Les médecins estiment que les comas éthyliques.
Bien sûr, mais bien sûr, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème d'addiction avec l'alcool. J'aimerais qu'on soit aussi vigilant avec les antidépresseurs, par exemple. Ça, je pense qu'il y aurait aussi matière à travailler. Mais au-delà de ça, il y a un vrai, il y a une vraie addiction, il y a un vrai problème avec l'addiction sur l'alcool. Et ça, les vignerons en ont bien pris conscience, puisque aujourd'hui, il y a une institution qui s'appelle Vin et Société, qui est là pour, justement, faire un peu le porte-parole, hein, entre le gouvernement et les vignerons. Les vignerons ont souhaité, eux aussi, faire de l'éducation, continuer à essayer d'alimenter sur cette formation pour pouvoir justement, dès le plus jeune âge, quand on va intervenir dans des écoles, moi à titre personnel, je reçois des écoles au domaine, tout simplement pour leur montrer que du jus de raisin ne sort pas d'une brique. Jus de raisin est porteur d'un fruit.
Il y a beaucoup de gens qui estiment que tant que le vin sera moins taxé que les alcools forts en France, on n'aura pas une lutte suffisamment forte.
Les pays comme la Norvège, la Suède, la Finlande ont taxé l'alcool. Ça n'a absolument pas baissé la consommation, bien au contraire. Et aujourd'hui, les gens que l'on taxerait sont des gens qui, à 80%, sont considérés comme des buveurs responsables. Donc si on modifie et qu'on augmente cette taxe, on ne va pénaliser que des gens responsables. Donc non, je pense qu'il faut plutôt accompagner effectivement les gens qui ont un problème d'addiction. Et qui n'est pas la seule addiction. L'addiction à l'alcool n'est pas le seul problème. Je parlais tout à l'heure des médicaments. C'est aussi, je pense, un phénomène important. Et je ne suis pas convaincue que l'industrie pharmaceutique ait les mêmes enjeux que nous.
Dans une tribune parue en septembre dans le journal Le Monde, Jean-Marie Cardebas, vous expliquiez qu'en Chine, les pouvoirs publics favorisaient la consommation de vin par rapport à d'autres alcools. Pourquoi cela ?
Parce que quand essayez de consommer de l'alcool de riz autant que vous consommez du vin, vous comprendrez tout de suite pourquoi. Donc effectivement, on est dans un pays qui est traditionnellement un buveur de spiritueux, si vous voulez. Les conséquences étaient bien plus dramatiques sur des organismes qui ont peut-être génétiquement déjà une moindre capacité, une moindre résilience à l'alcool. Et effectivement, entre deux mots, on a choisi le moindre d'une certaine façon. Donc le vin est apparu comme quelque chose d'assez intéressant pour se substituer aux spiritueux et notamment à l'alcool de riz.
Donc pour vous, la question, c'est vraiment ce que la consommation de vin produit sur la société. Quel est le coût économique de la production de vin par rapport à d'autres alcools? C'est dans ces termes qu'il faudrait se poser la question.
Je crois qu'on manque cruellement d'études économiques véritablement fouillées. J'en suis sans doute le premier responsable, mais... Quoi qu'il en soit, de telles études ont été faites aux États-Unis, en Australie notamment, c'est des études que je cite, si je me souviens bien, dans ce papier du Monde. C'est quand même assez intéressant parce qu'il dit justement que la fiscalité sur les alcools ne doit pas être monolithique. Il faut qu'elle soit adaptée à chaque alcool en fonction des études sociologiques, des comportements qu'ont les consommateurs de ces alcools. Il y a le fameux binge drinking dans les pays anglo-saxons par exemple, qui se fait plutôt à la bière ou aux spirits. Et on se retrouve dans une situation où les pays anglo-saxons disent qu'il faut nettement favoriser le vin en termes de fiscalité vis-à-vis de la bière, qui est pourtant à moindre degré d'alcool, et des spiritueux. Donc ça, c'est un premier point. Si on regardait ça en France, on se dirait finalement, soyons honnêtes, regardons les externalités négatives liées au vin. Il y a des accidents, il y a de la violence, il y a tous ces aspects-là, les maladies qui ont été mises en avant. Mais on a aussi tout un tas d'externalités positives. Et moi, je voudrais simplement qu'on regarde le débat de façon complète, c'est-à-dire qu'on regarde les aspects négatifs et les aspects positifs. On l'a dit tout à l'heure, les emplois créés. Imaginons qu'on taxe lourdement le vin. Combien ça va détruire d'emplois dans les campagnes? Qu'est-ce que ça va amener en termes de santé, en termes d'addiction, par exemple, aux médicaments, en termes de coût social, de coût sociétal, véritablement peut-être même en termes de suicide, etc., etc. Qu'est-ce que ça va coûter? C'est ça qu'il faudrait faire, en fait. C'est qu'il faudrait faire une étude complète pour que ce soit vraiment honnête comme débat.
Oui, et puis alors, pour le coup... C'est plus en deuxième position qu'on va se retrouver, c'est bien plus loin, parce que si on oublie aujourd'hui que le paysage
deuxième
français...
Deuxième position en tant que consommateur,
bien sûr, mais parce que imaginez si demain il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus de viticulteurs, ou en partie aujourd'hui c'est très compliqué de maintenir nos paysages. Je veux dire, si vous vous promenez dans la campagne, aujourd'hui la viticulture est en train petit à petit de disparaître. Donc on a un patrimoine qui est en train de s'échapper, donc il faut lui laisser un peu d'air, je pense.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin. La pierre et le raisin, je veux l'eau dans tes mains. Et le vin quand il convient. L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin. La mer qui me revient, je veux l'eau des marins. Au chagrin et les vins d'en rajouter. Trop de tanin me fait sombrer. En eau douce, en zone sinistrée, il est vain d'en rajouter. Il est vain d'en rajouter. L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin. La terre et le venin, je veux l'eau des matins. Aussi beau que le pain, le vin qui me parle et l'eau qui ne dit rien. Poisson dans l'un, poison dans l'autre, l'eau et le vin. Au chagrin, il est vain d'en rajouter. Trop de tanin me fait sombrer. En eau douce, en zone sinistrée, il est vain d'en rajouter. Il est vain d'en rajouter. L'eau et le vin.
L'eau et le vin d'Alain Bachoum sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous poursuivons notre discussion sur les métamorphoses de l'économie du vin avec Pascal Ferranti, Jean-Marie Cardebat et Séverine Bourrier. Aujourd'hui, le marché du vin s'internationalise. C'est une des grandes tendances que l'on observe. C'est que les vins voyagent de plus en plus, Jean-Marie Cardebat.
Oui, et le secteur du vin est un vrai laboratoire de la mondialisation en fait. C'est quelque chose de très intéressant pour un économiste international. On a vécu une première phase de mondialisation finalement, comme dans tous les secteurs, c'est-à-dire les pays dits développés ont exporté vers les autres pays développés. Donc c'était essentiellement l'Italie, la France et l'Espagne qui exportaient vers le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis. Ça a duré un certain temps. Et puis on a une deuxième phase de mondialisation, encore une fois comme dans les autres secteurs, où l'on a vu les pays émergents arriver. Alors d'abord en tant que producteur et consommateur, donc c'est le fameux nouveau monde, hein, c'est l'Australie, c'est la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Chili, et puis les États-Unis qui se sont affirmés en tant que producteurs. Et puis maintenant on vit quelque chose d'assez particulier auquel on n'était pas forcément préparé, c'est la troisième phase de cette mondialisation, c'est les nouveaux pays producteurs et consommateurs. Ce sont les émergents tout simplement, on a cité la Chine aujourd'hui premier marché de consommation de vin rouge. La Chine qui va devenir très vraisemblablement, et on a fait des études là-dessus avec un groupe d'économistes, un des principaux exportateurs, je dis bien exportateurs de vin sans doute, dans un horizon 15-20 ans. Donc voilà, c'est comme dans les autres secteurs, c'est-à-dire que les phases de mondialisation se succèdent les unes après les autres.
Vous parlez de la Chine comme premier consommateur mondial de vin rouge. Je vous propose d'écouter le directeur du salon du vin de Hong Kong et un blogueur canadien basé en Chine.
Dans le passé, les consommateurs chinois préféraient les alcools forts, mais ils ont été de plus en plus sensibilisés aux questions de santé publique, sans parler du niveau de vie qui a fortement augmenté. Donc ils ont tendance, aujourd'hui, à préférer le vin.
Les Chinois consomment environ 1,3 bouteilles de vin par an, alors qu'ils boivent environ 15 bouteilles de baijiu, l'alcool local. Il faut donc être réaliste. Le vin reste tout petit à côté du baijiu. Mais le potentiel est là. C'est ce qui attire tout le monde. Ce n'est pas le présent qui compte, mais l'avenir.
Avant même de parler de production en Chine, la consommation devrait encore largement augmenter dans les années qui viennent. Jean-Marie Cardebat, une bouteille à l'heure qu'il est contre 52 en France en moyenne.
Oui, ils ont de la marge effectivement, mais quoi qu'il en soit, c'est sans doute une très bonne nouvelle pour les producteurs français, mais ça va surtout quand même profiter aux producteurs chinois avant tout. Mmh. Vous savez, les Chinois, et encore une fois, vous pouvez faire une analogie avec n'importe quel secteur, industriel, marchand, etc. Les Chinois commencent par importer, ils regardent comment vous faites, alors, j'ai pas envie de dire qu'ils copient, mais enfin, ça me vient à l'esprit tout de même. Ils s'inspirent, voilà, ils s'inspirent effectivement, ils importent des talents qui vont leur montrer leur savoir-faire, etc. Et puis petit à petit, ils produisent eux-mêmes, d'abord pour leur propre marché, pour le marché local, c'est ce qui est en train de se passer, sur le moyen bas de gamme notamment, mais ils commencent à voir même quelques grands crus hein, en Chine. Et puis, il faut pas s'imaginer autre chose, ils vont finir par avoir une palette complète et des savoir-faire précis. Et ils vont finir par exporter, je le disais tout à l'heure, ils vont certainement s'imposer aussi sur ce marché-là. Ça paraît incongru aujourd'hui, ça paraissait impensable hier, mais certainement qu'ils s'imposeront comme un acteur majeur sur le marché international du vin demain.
Aujourd'hui, c'est l'Espagne qui est le premier vignoble mondial du monde.
En volume.
Voilà, au volume, et la Chine arrive juste derrière. Et ensuite, c'est la France. Pascal Ferranti, Séverine Bourrier, sur cette place de la Chine comme un producteur majeur de vin, ce qui pourrait intervenir à un court, moyen terme. Ça constitue une concurrence importante.
Bien sûr. De toute façon, il faut toujours vigilant. Voilà. Mais je pense qu'avant tout, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, à condition de se battre avec les mêmes armes. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est un petit peu la difficulté.
Vous parlez des taxes, par exemple.
Je parle des taxes, je parle de la législation autour de l'alcool, je parle de tout cet aspect administratif qui peut être extrêmement lourd.
Parce que le Chili et l'Australie, par exemple, ont noué des accords avec la Chine, ils ne payent plus de droits de douane.
Mais pas qu'avec la Chine.
Alors que les vins français, c'est 14%.
On est dans le même cadre en Corée, on est dans le même cadre dans plusieurs pays, au Vietnam. On attend des accords avec la France. Ça fait déjà 2 ans qu'on nous promet des accords au Vietnam. Pour baisser des taxes, nos vins sont taxés à plus de 40 ou 60%.
Avec le Japon, l'accord vient d'être
le cas aujourd'hui. Voilà. Exactement, c'est la bonne nouvelle.
Ouais. C'est vrai que ça met du temps. Et pendant ce temps, on perd des parts de marché. Et pendant ce temps, ce sont les autres qui les prennent. Donc effectivement, c'est un peu ça devant lequel on est désarmé.
À l'inverse, le président américain Donald Trump a estimé dans un tweet que la France taxait trop les vins américains, alors que les États-Unis, eux, taxent très peu les vins français. On voit que cette question des taxes, Pascal Ferranti, elle est évidemment centrale.
Oui, elle est centrale, et c'est vrai que les réactions au niveau des producteurs sont immédiates. Effectivement, c'est assez crispant comme sujet. Et du coup, effectivement, ça influence sur la stratégie commerciale des producteurs exportateurs. Sur les États-Unis, effectivement, c'était un peu plus tendu au niveau pour importer.
Il y a une crainte que les États-Unis relèvent leurs droits de douane.
Exactement. Et c'est vrai que quand, effectivement, il y a des bonnes nouvelles comme le Japon qui veulent annuler les taxes à l'importation, tout le monde effectivement réoriente sa stratégie vers des marchés qui sont plus ouverts.
Séverine Bourrier.
Oui, sachant que les vins américains sont quand même bien plus chers que les nôtres. Donc moi je suis assez optimiste, je vais rester positive, c'est que même le président américain décide de taxer davantage les vins, on restera quand même compétitif face aux vins produits aux États-Unis.
Vous disiez, Séverine Bourrier, qu'il y avait de la place pour tout le monde. Et justement, j'aimerais poser la question à Jean-Marie Cardeba. Est-ce qu'il n'y a pas trop de pays qui produisent du vin aujourd'hui? Et est-ce que ça ne dépend pas aussi des stratégies commerciales, des modèles économiques des différents producteurs?
Non, je suis vraiment d'accord avec cette idée que le marché s'élargit. Vous imaginez quand un pays comme la Chine s'ouvre en termes de nombre de consommateurs, ce que ça représente de volume vendu, c'est absolument colossal. Donc effectivement, je suis relativement optimiste pour l'avenir de la France. Simplement, rester leader et écraser le marché, ça il faut oublier. Clairement, il faut oublier, mais c'est tout à fait normal, c'est relativement sain d'ailleurs. Et ça ne veut pas dire que le secteur va souffrir d'un point de vue économique. C'est simplement qu'il y aura beaucoup plus de consommateurs qui vont se tourner assez naturellement, d'abord vers des vins locaux, parce que il y a cette dimension, on le retrouve très fortement dans la bière aujourd'hui, avec le phénomène des bières artisanales par exemple. Il y a vraiment cette idée qu'on retourne vers le local, beaucoup, et si les Français le font, les étrangers le feront aussi, ils le font déjà beaucoup plus. Donc il y a de la place pour tout le monde, c'est clair. Vous savez, un consommateur qui commence à boire du vin finit toujours par boire un vin français. D'habitude, je dis par boire un vin de Bordeaux, mais là, je vais...
C'est un beau proverbe.
C'est gentil d'élargir.
Je voudrais qu'on parle notamment de la concurrence que constituent les États-Unis en tant que pays producteur, notamment en Californie. On voit que la consommation s'est peu à peu démocratisée aux États-Unis. Ils ont cette longue histoire, évidemment, la fin de la prohibition en 1933. Et en même temps, les États-Unis sont devenus le premier client de la France en valeur. Et c'est notamment le rosé qui tire beaucoup les ventes aujourd'hui. Séverine Bourrier.
Oui, on a de grosses parts de marché à récupérer, ça c'est clair. Je suis pas convaincue encore que le marché français l'ait bien saisi, mais on a de belles choses à faire sur le rosé. Ils sont très demandeurs. On a le savoir-faire, on a les terroirs pour le faire. Il y a les hommes et les femmes pour le faire, donc je pense qu'il n'y a plus qu'à. c'est aussi, encore une fois, être un peu moins timide là-dessus, parce que c'est un petit peu nouveau comme demande. La France était quand même très en avance sur les rouges, les rosés un peu moins. Ça a souvent été vendu comme des sous-produits. On faisait du rosé à l'époque, il y a 30 ans, parce que il fallait concentrer les rouges. On n'est plus sur ces profils-là du tout. Il faut aussi être vigilant, parce que la clientèle américaine est de plus en plus exigeante. Donc il faudra pas se tromper, parce que sinon les Espagnols et les Italiens, eux, ne se tromperont pas.
On arrive presque au terme de cette émission. Je voudrais vous demander quels sont les futurs enjeux du marché du vin, et notamment, est-ce que le réchauffement climatique pourrait menacer ou au contraire favoriser la production ? Jean-Marie Cardebat ?
Les deux, ça dépend pour qui. Donc effectivement, on parle beaucoup des vins au Royaume-Uni, par exemple, ou dans d'autres pays d'Europe du Nord, y compris en Allemagne. Donc là, clairement, les évolutions seront favorables. En revanche, certains pays, et pas simplement la France, hein, je pense beaucoup à l'Espagne qui souffre, qui est en première ligne, l'Argentine qui souffre beaucoup, l'Australie qui souffre énormément. Donc toutes ces zones qui ne sont pas dans des zones tempérées, je dirais, sont exposées à un risque très fort lié au réchauffement climatique.
Mais pour la France, c'est plutôt paradoxalement une bonne nouvelle.
C'est à voir. Disons que dans les années 2000, ça l'a été. Si on prend l'exemple du Bordelais, il n'y a jamais eu une telle fréquence de très grands crus que dans les années 2000. En revanche, peut-être que dans la prochaine décennie, ce sera beaucoup plus compliqué d'avoir une très belle qualité. Donc il faudra savoir s'adapter, il faudra savoir créer des cépages résistants peut-être, il faudra que les AOC acceptent d'autres cépages que les cépages traditionnels. Donc pour un pays qui est quand même assez conservateur et très attaché à ses traditions, ça risque d'être compliqué.
Séverine Bourrier, sur l'avenir de ce grand marché mondial du vin.
Moi je suis positive, sinon il faut arrêter demain. Non, moi je suis très sereine. Je pense que même si les domaines ont diminué, les gens qui restent sont de valeur. On donne envie aux gens qui restent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne fait plus ce métier par héritage mais par volonté. Ça, c'est important. C'est important parce qu'on prend conscience de ce dont on a besoin ici aussi. Et non, moi je suis très optimiste, et même quant à l'exportation des vins, la seule chose sur laquelle il faut pas qu'on dérape, c'est sur la qualité. On n'a pas le droit de tromper aujourd'hui le consommateur. Il est bien plus averti que ce qu'il n'a jamais été. Et peut-être plus à l'étranger qu'en France. On croit souvent qu'on connaît tout sur le vin en France, mais les étrangers ont une capacité d'enseignement qui a été assez fabuleuse. Donc voilà, non, je suis assez sereine, et puis aussi parce que je suis perpignanaise et que cette année Perpignan est ville européenne du vin, donc il faut l'être.
Vous parlez du consommateur, il y a peut-être un enjeu de meilleur apprentissage autour du vin encore qui demeure, Pascal Ferranti.
Alors oui, enfin c'est vrai que c'est une bonne question, parce que nous pour Wine Paris, en fait on a fait réaliser une étude par Opinion Way en septembre dernier, et en fait on a posé des questions par rapport à l'attachement des Français sur leur terroir, hein, et il a paru notamment sur les millennials, les 18-24 ans, que ils avaient vraiment ils consommaient moins mais mieux, que effectivement le prix moyen d'achat au niveau d'une bouteille était nettement supérieur par rapport à leurs aînés, et que ils étaient vraiment enclins à faire des découvertes au niveau des vignobles et aller sur des régions comme je vais faire plaisir à Sabrine sur le Roussillon, le Beaujolais, la vallée du Rhône, alors que leurs aînés préféraient Bordeaux et la Bourgogne. Donc voilà, il y a une évolution au niveau, et aussi des vins étrangers, bien évidemment, sur l'Italie, l'Espagne. Voilà.
Un grand merci à tous les trois de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Pascal Ferranti, Jean-Marie Cardebat et Séverine Bourrier. Jean-Marie Cardebat, je rappelle votre livre « L'économie du vin » paru aux éditions de La Découverte. Un grand merci. Il est 14h43 sur France Culture, l'heure de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. C'est un ouvrage de l'ancien conseiller de Barack Obama et de Bernie Sanders, James Kenneth Galbraith, qui rejoint notre bibliothèque aujourd'hui. L'État prédateur, paru en 2009, montre comment la gauche s'est convertie à l'idéologie du marché libre quand la droite, elle, y a renoncé. Et pour en parler, nous avons invité Aurore Laluc. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, porte-parole de Génération, le mouvement de Benoît Hamon, et co-directrice de l'Institut Veblen. Alors pour James Galbraith, qui est par ailleurs professeur d'économie à l'Université du Texas, le marché libre est un mythe qu'il s'attache à démonter dans la première partie de son ouvrage. C'est un dieu qui meurt, pour reprendre son expression, mais qui ne meurt peut-être pas assez vite à son goût, Aurore Laluc.
Oui, ce qui est intéressant dans son ouvrage, c'est qu'il va... Galbraith, il part de Katrina. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet ouragan qui va dévaster une digue du côté de la Nouvelle-Orléans
en 2005
et qui va inonder toute cette partie des États-Unis et qui va mettre en évidence le mythe autour du libre-marché. C'est-à-dire que cette digue n'a pas été entretenue. On est dans l'économie la plus riche du monde, les infrastructures ne sont pas entretenues. Et ça met en évidence aussi cette catastrophe, la façon dont les États-Unis prennent ou ne prennent pas soin de leur population. Pour lui, c'est quelque chose de très marquant. Il va partir de là pour son livre. Et c'est comparable à Tchernobyl pour lui. Tchernobyl, c'est vraiment le moment qui va dévoiler l'imposture de l'économie et de l'État soviétique, qui était censé être très très doué pour prendre soin des infrastructures et qui encensait le bien-être, la question sociale, le peuple, etc., etc. Et on va voir avec Tchernobyl que non, ils savent pas prendre soin de leurs infrastructures. Et ils ne prennent absolument pas soin de leur population. Il part de ce constat-là. Pour lui, Katrina, c'est le Tchernobyl américain. C'est pas le Tchernobyl du communisme, c'est le Tchernobyl du libre-marché. Et il va essayer de briser cette image du libre-marché, montrer en quoi c'est une imposture, ce sont des éléments de langage. C'est une croyance, un conte qu'on raconte aux enfants pour voir leurs yeux briller le soir. Mais entre adultes, on sait très bien que c'est n'importe quoi, que c'est entièrement faux.
Mais un conte en lequel la gauche s'est mise à croire, alors que la droite, elle, a cessé d'y croire de façon un peu paradoxale.
Exactement. Et c'est intéressant dans son livre parce qu'en fait, il parle de son parcours. Il explique qu'il était, il travaillait notamment à la Chambre des représentants et au Congrès, et il voit arriver toute cette génération dans les années 80, très très proche de Reagan, qui effectivement croit. On est vraiment dans le domaine de la croyance, de l'utopie, croit aux forces du marché, au libre marché, etc. Il se met même à douter. Il se dit, mais ça se trouve, c'est eux qui ont raison. Lui, il a l'impression d'être un espèce de casseur d'ambiance en expliquant que non, ça marche pas comme ça, l'économie et la société, si on veut que ça avance, faut faire totalement autrement. En fait, il s'aperçoit que quand ces personnes arrivent au pouvoir, elles font totalement l'inverse de ce qu'elles ont dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de libre marché. On a un État qui est en fait extrêmement présent. Et par contre, on a une réorientation des dépenses de l'État. On a une réorientation totale, une capture même de l'État au profit finalement d'une certaine classe sociale. Donc il voit bien cette entreprise de mensonges, de mythes. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que la gauche, les démocrates, eux sont totalement tombés dans le piège. C'est-à-dire qu'ils sont dominés intellectuellement. Ils pensent effectivement que la libre concurrence, le libre marché, c'est la réalité de la règle économique et que par contre, il faut mettre quelques doses de social par-ci, par-là. Mais ils se sont fait complètement avoir.
Et ce que démontre Galbraith, par exemple, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les conservateurs ne réduisent pas les dépenses une fois arrivés au pouvoir.
Exactement, et c'est là toute l'entourloupe. C'est-à-dire que dans ce livre, c'est ça qui est intéressant, il prend le concept de libre marché au sérieux. Et ils disent, allons-y, regardons s'il y a vraiment du libre marché. Qu'est-ce qu'on observe? Pas de réduction des dépenses publiques. Quand la droite ou les conservateurs sont au pouvoir, il n'y a pas de réduction des dépenses publiques, voire il y a même une hausse, souvent. Pas de libre marché, pas de libre concurrence, c'est-à-dire que la mondialisation n'a jamais été aussi contrôlée qu'aujourd'hui. Il y a une multitude d'accords, donc on ne peut pas parler de concurrence globale du tout. Donc oui, effectivement, il montre bien à quel point tout ça, ce sont des éléments de langage pour faire passer d'autres politiques.
Et c'est en cela que, selon lui, le marché libre dissimule un état prédateur.
Exactement.
Et là-dessus, il s'inspire en particulier de Thorstein Veblen. Pour lui, c'est le génie de la science économique américaine au début du XXe siècle. Qu'est-ce que c'est que cet état prédateur dont il parle?
Alors, l'état prédateur, effectivement, c'est une source d'inspiration de Thorstein Veblen. Vous savez, les Galbraith, c'est père et fils, ce sont deux économistes. Il y avait John Galbraith, qui était proche de Kennedy, conseiller aussi de Johnson. Et puis, il y a le fils, James. Et tous les deux partagent un amour pour Thorstein Veblen. Veblen, ce qui est intéressant, c'est que c'est un économiste qui ne s'intéressait pas au marché. Il s'intéressait à la société. Et c'est parce qu'il s'intéressait à la société qu'il s'intéressait au marché. Et pour Veblen, il y avait, au sein de la société, des instincts d'adhésion, des instincts de domination et des instincts de prédation. Et il y avait une sorte de combat, de lutte entre ces différents instincts et ils se cristallisaient, se sédimentisaient au sein des institutions. Et là, en fait, c'est la prédation qui va gagner, qui va remporter justement au sein de ces institutions la bataille. Et c'est John, en fait, Galbraith, qui, à l'hôpital, va dire à son fils, c'est fait partie de ses dernières paroles, en fait, ses dernières visites, « Tu devrais écrire un livre là-dessus ». Sur l'État prédateur, c'est-à-dire la façon dont l'État, en fait, va collecter les richesses globales et les mettre finalement beaucoup plus au service d'une petite classe sociale plutôt que de la mettre au service du bien commun. C'est-à-dire qu'il fait l'inverse de ce pourquoi il a été créé.
Et non seulement une petite classe sociale, Aurore Laluc, mais aussi la frange la plus réactionnaire. Et c'est aussi cela qui pose problème, c'est-à-dire que tout cela se fait aussi au détriment des milieux d'affaires les plus innovants et les plus progressistes.
Exactement, c'est-à-dire qu'on voit encore une fois à travers des images très chic et modernes, de libéralisme, de liberté, d'innovation, etc., une capture de l'État au profit à la fois des agents de l'État, des fonctionnaires, à la fois des élus et à la fois des entrepreneurs, finalement les plus conservateurs, qui ont intérêt à ce que ça continue à fonctionner comme ça, parce que finalement ils mettent les ressources de l'État et les ressources des citoyens américains à leur service.
Et alors comment expliquer, malgré tout ce que dénonce Galbraith, que les États-Unis aient réussi à éviter un effondrement économique et social ?
Ça dépend ce qu'on entend par effondrement économique et social. C'est-à-dire que c'est une économie qui fonctionne très bien, mais pour qui ? Et pourquoi ? On aurait pu faire beaucoup mieux. Kennedy avait commencé à faire des choses intéressantes. Johnson avait commencé à faire des choses intéressantes. Ils avaient suivi en cela la trajectoire de Roosevelt qui était le début de la mise en place d'un État-providence. Donc oui, effectivement, l'économie américaine, elle tourne à plein en général. Mais avec des chiffres du chômage qui sont sous-évalués, avec une pauvreté très importante et très dure, et on l'a vu justement avec Katrina. Tout ça a explosé, c'est-à-dire qu'on a vu la façon dont l'État américain traitait sa population, notamment les plus faibles, et notamment les Afro-Américains.
Galbraith parle aussi de la solidité des institutions héritées du New Deal.
Oui.
Pour lui, c'est aussi grâce à cela que l'Amérique a tenu.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que quand même les États-Unis arrivent à fonctionner encore grâce aux institutions qui ont été mises en place lors du New Deal de Roosevelt et ensuite par l'administration aussi Johnson qui a poursuivi en fait la construction de l'État-providence. Et sans ça, il y aurait effectivement un effondrement social beaucoup plus important. Les États-Unis vivent de cet héritage malgré tout.
Et ce qui est intéressant avec James Galbraith, c'est qu'il n'est pas un critique antilibéral classique, non, dans le sens où il vante les vertus de la concurrence et il rejette le protectionnisme.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant chez les Galbraith en général, c'est que ce sont des briseurs d'images. Ils n'appartiennent à aucune école de pensée, ce qui les oblige à avoir une certaine exigence intellectuelle. C'est très confortable de se mettre dans une école de pensée. On a un cadre théorique, on n'a plus qu'à s'y glisser, et puis finalement, ça ronronne. Eux, ils ne se mettent jamais dans ce cadre-là. Donc non, il n'est effectivement pas du tout anti-concurrence. Par contre, il va expliquer qu'on n'est pas du tout dans une économie libérale, et qu'il faut arrêter, notamment dans les débats publics, quasiment d'utiliser ce mot, parce que ce sont des faux débats. Ces débats ne permettent pas de faire avancer la pensée, de faire avancer tout simplement le débat public, parce qu'on parle de quelque chose qui n'existe pas. C'est un piège sémantique, en fait.
Dans la troisième partie de l'ouvrage, James Galbraith se propose de combattre les prédateurs. Alors, quelle solution est-ce qu'il préconise ? Il ose, par exemple, proposer la planification, ce qui est, oui, un peu un tabou aux États-Unis.
Alors, c'est à la fois un tabou et une réalité. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a des villes qui utilisent la planification écologique. Par exemple, dans l'État de l'Oregon, à Portland, il existe une planification écologique. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, à la fin de son livre, il écrit, vous savez quoi, vous voulez augmenter les salaires, augmentez-les. Vous voulez créer de l'emploi, créez de l'emploi. Vous voulez lutter contre les gaz à effet de serre, passez par la réglementation. Interdisez certains types de pratiques. En fait, ce que Galbraith réhabilite, c'est la réglementation. Plutôt que de passer par des politiques extrêmement complexes en disant « Regardez, si j'appuie sur telle manette économique, ça va créer tel type d'emploi, etc. » Il dit « Allez-y, utilisez les pouvoirs de l'État, utilisez les institutions existantes et faites. » En fait, à travers ce livre, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça permet de libérer l'imaginaire dit de gauche.
Et alors, dans quelle mesure est-ce que ces recettes vous paraissent transposables à la France, Aurore Laluc ?
Eh ben, elles sont transposables à la France parce qu'en fait, on a le même problème partout. C'est-à-dire que cette espèce d'imaginaire selon lequel il n'y a qu'une façon de faire de la politique économique, c'est réduire les déficits publics et la dette publique, jamais privée, faire de la flexibilisation du marché du travail, privatiser les biens publics, etc. Ça s'applique partout. Partout, il y a une augmentation des inégalités, par exemple. C'est juste qu'en fonction de nos systèmes sociaux, l'impact a été plus ou moins élevé. Donc on pourrait parfaitement, et d'ailleurs c'est ce qui est revendiqué aujourd'hui par les Gilets jaunes, augmenter les salaires, augmenter le SMIC, plein de choses comme ça, c'est dans le débat partout finalement au niveau mondial.
Je le disais, James Galbraith a conseillé Barack Obama et Bernie Sanders, vous êtes vous-même porte-parole de Génération, le mouvement de Benoît Hamon. Quel doit être selon lui et selon vous le rôle des économistes dans la cité, Aurore Laluc ?
Eh bien exactement ce qu'il fait dans son livre, c'est-à-dire éclaircir les termes du débat. C'est à mon avis le plus important. Éviter les faux débats, c'est ça qui est génial dans ce livre. C'est-à-dire que avoir des économistes qui donnent à voir la réalité des termes du débat, les vulgarisent, ne nient pas la complexité, mais les exposent simplement, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Parce que quand on fait ça, on a fait 90% du chemin, en fait. Et il y a James Galbraith qui fait ça, Philippe Frémaux fait ça très bien aussi, Jean Gadret fait ça très bien. Il y a plein d'économistes comme ça qui ont cette capacité à retranscrire réellement les termes du débat. Comme ça, après, on peut faire notre choix. Mais on le fait en connaissance de cause, voilà, en comprenant les tenants et les aboutissants.
Je vais revenir un petit peu en arrière, mais il y a deux choses que je voulais vous demander et que j'ai passé un petit peu vite. Galbraith explique notamment pourquoi le monétarisme orthodoxe, qui relie l'inflation à la croissance de la masse monétaire, est une fausse théorie. En quoi rejette-t-il le monétarisme ?
Le monétarisme, c'est une fausse théorie, c'est marrant. Même Friedman, en fait, l'a dit. Milton Friedman, c'était le père du monétarisme. C'est lui qui a eu finalement l'impact en tant qu'économiste, le plus fort, à mon sens, pour justifier, pour donner un vernis scientifique à une entreprise qui était fondamentalement politique et idéologique. Et même Friedman avait dit, mais à la fin de sa vie, non, mais ça n'a jamais marché. James cite sa phrase dans ce livre. Tout simplement parce que l'économie ne fonctionne pas comme ça. Il y a une réalité, une connexion entre la sphère monétaire, la sphère financière et la sphère réelle. Elles influent toutes les trois, elles sont en interaction. Et oui, toutes les théories, en fait, de l'école de Chicago se sont avérées, en fait, complètement fausses.
Mais en quoi la théorie monétariste était-elle idéologique ? Quelle était l'idéologie ? Quel était le but de cette théorie ?
Le but est d'annihiler toute volonté de régulation. Je pense qu'il y a vraiment ça derrière. Et de dire qu'il faut laisser faire, absolument. C'est une entreprise qui vise à réduire l'imaginaire, réduire en permanence les termes du débat et dire, peu importe ce qu'on fait avec la monnaie et avec la finance, ça aura des conséquences vertueuses si on va dans le sens, évidemment, des néoconservateurs.
Et dernière question, quant à l'équilibre budgétaire, Galbraith estime que c'est une mission impossible et sans intérêt. Oui. Pourquoi cela ?
Quand on parle avec James des déficits publics et de la dette publique, il dit « ce sont des chiffres ». Il y a ce geste avec les mains en l'air, ce sont juste des chiffres. À partir du moment où l'État a un pouvoir de création monétaire, effectivement, ce sont juste des chiffres. Et en fait, ce qu'on note de toute façon, c'est que les crises financières, par exemple, ne viennent jamais des dettes publiques, elles viennent toujours des dettes privées. À chaque fois qu'on a une dette privée conséquente, on peut être à peu près sûr qu'une crise financière va arriver. Donc c'est la dette privée, en fait, qu'il faudrait regarder. D'ailleurs, elle est très élevée en ce moment en Europe. La dette publique, un État, ça ne meurt pas.
Mais l'Argentine a pu faire défaut de paiement en 2001, par exemple.
Oui, mais tout ça, c'est très politique, en fait, très peu économique. Même chose pour la Grèce. Quand on regarde l'état des comptes de la Grèce, c'était pas du tout une dette énorme. Par contre, la réaction politique qu'il y a eu derrière, de fait, elle pouvait faire peur au marché, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Mais en fait, la monnaie est une institution fondamentalement politique, elle n'est pas qu'économique. Et c'est de la violence et de la confiance. Et c'est aussi la réaction des pouvoirs politiques, c'est aussi les jeux de pouvoirs politiques au niveau mondial qui vont avoir un impact réel sur la dette. Mais quand on est les États-Unis d'Amérique, la dette publique, c'est pas forcément du tout le problème. Et en Europe, non plus. Par contre, on a un vrai problème de dette environnementale et c'est là où aujourd'hui où on doit mettre toutes nos forces.
Merci beaucoup, Aurore Lamy.
Merci à vous.
L'État prédateur de James Galbraith est paru au Seuil et je renvoie les auditeurs à votre ouvrage « Faut-il donner un prix à la nature ?» écrit avec Jean Gadret, une publication de l'Institut Veblen et des Petits Matins. Un grand merci. C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, direction la Chine. Nouvelle série consacrée à la puissance économique de l'Empire du Milieu et à ses limites. En attendant, vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.